les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista. On y va. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chères auditrices. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre magazine mensuel. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Marseille. Pourquoi Marseille? Parce qu'il y a eu le coup d'envoi de la marche nationale des sans-papiers que vous allez suivre en intégralité au mois de novembre. En attendant, j'ai rencontré une dame qui a un témoignage assez émouvant pour vous ce soir. Vous allez la découvrir. Elle s'appelle Fadila, elle est mère de deux enfants, un qui est universitaire et l'autre collégien. Elle est veuve, elle a été mariée à un Français. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez le découvrir au cours de cette émission, d'où le thème « Le combat de Fadila ». Bonsoir madame.
Bonsoir.
Fadila, c'est votre prénom et votre nom?
Alors, je suis madame Frerking Fadila. Je suis une Algérienne d'origine. J'arrive en France en 2018. Je me marie avec un ressortissant français en 2019, début 2019. Et malheureusement, juste après mon mariage de 5 semaines, j'ai perdu mon mari.
Avant de poursuivre, dites-nous d'abord, quelles sont les études que vous avez faites en Algérie? Avant de venir en France, vous faisiez quoi? Étudier, travailler?
Alors en Algérie, bien sûr, presque comme beaucoup d'Algériens. Je suis universitaire, j'ai fait des études à l'université d'Alger. Et du coup, j'ai fait un tronc commun en Sciences Po, 2 ans de journalisme. Et du coup, je me suis trouvée dans le commerce, ce qui m'a poussée à faire un master en gestion d'entreprise. Et du coup, j'ai géré mon entreprise pendant des années. J'avais un atelier de couture depuis 20 ans et j'avais une autre entreprise de location et d'entretien de véhicules pendant 12 ans. Alors, je suis maman, effectivement, de 2 enfants, une jeune universitaire de 21 ans cette année. Cette jeune universitaire a subi l'injustice en France. Elle est restée 2 ans déscolarisée à cause de ce bout de papier. Alors que nous sommes ici en France, nous sommes venus en France pour une seule cause, c'est qu'on a suivi, j'ai suivi mon mari avec mes 2 enfants.
Et vous êtes connue en Algérie avec Louis?
Oui, mais bien sûr. Mon mari, c'est un Français, c'est un ressortissant français. Je suis mariée ici, en France, mais bon, toute ma famille le connaît, bien sûr. Sans doute, quoi.
Et vous habitez où en France? Vous
l'avez Alors, connu, je suis du côté du Bas-Rhin. Je suis de Strasbourg, et plus exactement dans la deuxième ville du Bas-Rhin, qui est Haguenau, si vous entendez bien, si vous connaissez. Alors, une belle petite ville historique. Alors, mon mari, c'est un Haguenauvien de Haguenau. On est mariés à la mairie de Haguenau. Et j'ai demandé mon titre de séjour juste après le mariage, mais la réponse c'était après le décès, parce que au fait j'avais pas assez de temps pour déposer le dossier, comme c'était 5 semaines après le mariage, le temps déjà d'avoir un rendez-vous avec la préfecture, ces préfectures que aujourd'hui je remets en cause, parce que ces préfectures ils nous laissent pas le temps ni de déposer les dossiers correctement, ni d'étudier correctement, parce que moi au fait j'étais victime de ce principe là. Je suis mariée le 9 mars 2019 et pendant tous les lundis, j'attendais devant l'écran pour avoir un rendez-vous en ligne, parce qu'ils nous obligent d'avoir des rendez-vous en ligne. Et du coup, ces rendez-vous en ligne, c'est pas possible de les avoir tous les jours. On clôture rapidement. Et du coup, ça a traîné jusqu'à 5 semaines. Et malheureusement, la mort ne choisit pas l'heure et la date. Hein. Oui. Mon mari a fait un arrêt cardiovasculaire et du coup, il est parti avant que je dépose en fait le dossier. Mais c'est pas moi qui a choisi sa mort, ni lui. Et quand j'ai déposé, en fait, le Bas-Rhin, 3 mois après, la préfecture du Bas-Rhin, 3 mois après, m'a répondu que obligation de quitter le territoire français avec mes 2 enfants, parce que cet acte de mariage et tout ce que j'ai vécu en France avec mon mari n'est rien. Personne ne reconnaît ça. Ils ont ignoré tout.
Et vous avez saisi les organisations pour vous accompagner dans vos démarches?
Alors, pour la première demande, je l'ai déposée comme tout le monde. Et quand j'ai eu le refus, j'étais à la CIMAD, bien sûr. La CIMAD, elle m'a orientée pour faire les démarches, pour faire appel à ce jugement. Et du coup, le tribunal du Bas-Rhin a accordé encore une fois le refus. Et je suis passée à la cour avec un autre avocat privé qui m'a demandé une somme, imaginez, de 2500 euros. Ce que je ne peux pas avoir dans ce sol, sur le sol, parce que je ne travaille pas, je n'ai pas de moyens pour payer tout ça. Mais on nous oblige quand même de payer les avocats, de courir derrière ces papiers, alors que c'est un droit absolu.
Et vous n'avez pas demandé à l'État l'aide juridictionnelle?
Même, j'ai demandé à l'État, c'était 400 euros. Et pour accorder cette aide juridictionnelle, il fallait que j'attende. J'ai attendu 13 mois pour l'accorder. Et pendant ces 13 mois, il me faut de la nourriture, il me faut une location, il faut quand même le minimum de moyens pour vivre. 13 mois, c'est beaucoup pour un sans-papier. 13 mois, déjà, c'est beaucoup pour un Français qui est chez lui, sur le sol. Alors là, pour un sans-papier qui n'a aucun droit sur ce sol. C'est vraiment injuste.
Nous allons à présent lancer une pause musicale. Et Madame Fadila, vous étiez en train de m'expliquer hors micro qu'avec votre mari, avant son décès, vous avez le projet de monter une entreprise.
Une entreprise, oui. On a commencé à monter une entreprise de rénovation. J'ai pas pu continuer parce que on a commencé les démarches de cette entreprise en mois de janvier. Alors le mariage a eu lieu le mois de mars et le décès juste après, le mois d'avril, malheureusement. J'avais pas de chance et lui, il m'a quitté comme ça, vite, sans... Je sais pas comment je vais m'exprimer pour ça. C'est le destin. Et du coup, tous ces événements se sont passés un derrière l'autre. On ne m'a pas laissé le temps d'ouvrir la grande porte pour arriver en fait, à l'objectif. Et du coup, voilà, la situation est vraiment, vraiment précaire.
Et comment vous vivez depuis tous ces temps, depuis le décès de votre mari, comment vous vivez sans papier, je ne sais pas, vous travaillez au noir ou bien votre mari a laissé, je ne sais pas moi, une entreprise que vous avez héritée. Expliquez-nous un peu la situation.
Je vais vous dire que après le décès de mon mari, en fait, j'étais en location avec mon mari dans un appartement. Et puis après le décès de mon mari de 4 ou 5 mois, la propriétaire n'a pas accepté de me garder comme locataire parce que j'ai pas de papier et elle a peur pour elle et tout. Et vous connaissez un petit peu la région du Grand Est, c'est pas comme Paris, c'est pas comme Marseille, il y a peu d'étrangers. Alors c'est les habitants originaux de la région. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et le travail là-bas au noir, c'est rare. Existant, ouais. C'est rare, oui. C'est rare de trouver un employeur. Alors, je vivais que des aides de ma famille d'Algérie et des aides de des amis et de ma belle famille aussi, que je remercie énormément, la famille à mon défunt. Et voilà, depuis 16 mois que je vivais comme ça. Et un participe pour le loyer, un participe pour les courses, un participe, c'est difficile. C'est vraiment difficile parce que je sais très bien, si je quitte la France, je n'aurai pas le visa pour retourner. Et puis mes enfants, ils sont intégrés maintenant. J'ai un enfant de 12 ans, il est au collège, il a 3 ans déjà d'études. Il ne peut pas encore retourner en Algérie pour refaire à zéro. C'est difficile. Et ma fille, elle a commencé cette année. C'est compliqué. C'est compliqué. En plus, même en retournant en Algérie, j'ai fermé mon entreprise pour venir ici, pour s'installer avec mon mari et pour commencer un nouveau projet. Sinon, je n'aurais pas dû fermer si ce n'était pas un projet pour toute la vie. C'est compliqué, madame. Franchement, c'est très compliqué pour nous, les sans-papiers. Tous les sans-papiers, sans exception, ils souffrent sur ce sol. C'est dénigrant quand même.
Et le moral de vos enfants?
On est complètement démoralisés. Et moi et mes enfants, parce que là, en fait, on a non seulement on a perdu la personne la plus chère, on a perdu aussi nos droits. On n'a aucun droit, on n'a aucun espoir de vivre. Ouais, on vit du jour au lendemain, on attend, mais on a marre de cette attente. On est vraiment épuisé, on est fatigué.
Nous allons encore marquer une pause en suivant un morceau de musique.
Mm-hmm.
Madame Fadila, dites-nous comment vous avez rejoint le collectif de son papier d'Alsace.
Alors, en regardant dans des réseaux sociaux à jour, il y avait un groupe à Paris qui a commencé ses démarches des sans-papiers par rapport à la crise sanitaire, la pandémie du Covid-19, le mois de mars et le mois d'avril. Et comme j'avais beaucoup de... En fait, ça fait longtemps que je venais en France, ça fait des années que je connaissais la France. J'ai 4 frères de nationalité française, ils sont nés en France. J'ai 3 frères, Christophe, Eric et Régis, et ma sœur Béatrice, qui vivaient un peu partout en France, Lyon, Grenoble, Toulouse et Paris. Alors j'ai une fraternité ici, mais quand même la préfecture, quand j'ai présenté que j'ai ma famille ici, on m'a rejeté le dossier, ils s'en foutaient complètement. C'est pour ça que je vous ai dit, que je vivais des aides de ma famille de France parce que j'ai quand même une famille assez importante en France. Et ma sœur de Paris aussi. Alors, la question c'était comment j'ai...
Rejoint le collectif d'Alsace.
Voilà. Alors, ce mouvement de Paris m'a poussé à... En fait, l'existence de ce collectif et ma situation dont j'étais. Pendant le Covid, on a vécu quand même 3 mois enfermés à la maison. Personne n'est venu taper à la porte pour ni nous donner à manger, ni pour travailler, ni pour demander qu'est-ce que ces gens-là ils subissent du matin au soir dans cette crise, alors que tous les Français qui ont le droit, ils ont quand même le minimum, ils ont tous les droits. Et ce qui m'avait poussé à rejoindre un bon nombre des sans-papiers à Strasbourg. Et c'est de là qu'on a créé ce collectif. Je suis membre fondateur de ce collectif, à côté de mes collègues Stan, Aliou, Abadrou, plusieurs Algériens, Tunisiens, Marocains, et toute nationalité européenne de l'Est et africains aussi. Alors, on a créé ce collectif et c'est de là qu'a commencé le combat. Il y a plusieurs situations, non que la mienne, il y a beaucoup de cas qui sont vraiment choquants aussi. Par exemple, les demandeurs d'asile qui se trouvent dans les rues pendant le Covid. Il y en a qui sont arrivés par bateau, il y en a qui sont arrivés par des décrets, ils ont perdu leurs droits. Plusieurs cas. C'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de cas. Et du coup, là, on a commencé la lutte, le combat de Strasbourg. Il y avait un de nos amis qui nous a donné un local. Alors on fait des réunions là-bas régulièrement et puis on discute de tout notre cas. On appelle à des soutiens et voilà, on continue à vivre, à faire notre combat pour avoir une régularisation massive parce que cette fois-ci, tous les sans-papiers, ils ont payé vraiment très cher cette crise sanitaire, plus que tout le monde.
Et en Alsace, y a-t-il beaucoup de cas de sans-papiers ?
Bon, il y a quand même des cas, beaucoup de cas, mais pas autant que Marseille, ni autant comme Paris, parce qu'en fait, c'est des grandes villes. Strasbourg, c'est une grande ville aussi, mais pas quand même comme Marseille ou Lyon ou Paris. Il y a quand même un nombre important de sans-papiers aussi. Parce que Strasbourg, c'est une ville accueillante aussi. C'est une ville un peu spéciale. L'être humain là-bas, il peut se sentir à l'aise. Il y a des sans-papiers. Il y a des sans-papiers de toute nationalité. Ouais.
Vous vous sentez, j'imagine, en cet instant un peu abandonné par la France. Est-ce que vous n'avez pas eu l'idée de quitter l'Alsace pour vous chercher ailleurs? Dans d'autres coins, peut-être que votre situation peut s'améliorer, non ?
Alors, honnêtement, je ne veux pas quitter l'Alsace. Je veux rester en Alsace parce que, à la base, mon mari, c'est un Alsacien. Mon mari, il est de l'Alsace. Il a tous ses biens en Alsace. Je veux rester en Alsace, à sa mémoire. Je veux rester en Alsace. Et je souhaite que mes enfants aussi réussissent là-bas parce qu'ils aimaient beaucoup l'Alsace. Et si je suis là, c'est pour aussi mes enfants. Ils veulent rester du côté du Grand Est. Ils ne veulent pas partir ailleurs.
Et parlons de votre combat aujourd'hui. Vous le poursuivez jusqu'où?
Alors, mes droits aujourd'hui, moi je souhaite avoir mon titre de séjour pour vivre dignement, pour vivre une vie normale, une vie comme tout le monde. Oui, je suis là, je suis partante au bout du chemin parce que je ne lâcherai pas facilement. Parce que, à mon avis, je suis légale. Parce que je ne suis pas venue comme ça. C'est une longue histoire. Après, c'est suivi d'un décès. Ce décès, c'est un destin. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Je demande quand même à la préfecture, au procureur et au président de la cour de revoir vraiment ce point. C'est très important. Ils sont en train de détruire une vie de trois personnes à la fois.
Et votre dernier mot ?
Je vous remercie énormément pour cette émission, madame. Et je remercie aussi tous les gens qui me tiennent la main pour arriver là, pour avoir du courage pour combattre, en fait, pour ce combat, ce grand combat. Je souhaite beaucoup de courage pour tous mes amis aussi dans ce combat, pour cet événement et cette marche qu'on a commencé arrivant à l'Élysée. Et j'espère bien que le 17, on aura quand même un grand son, une grande voix à l'Élysée pour nous dire qu'on vous voit, vous êtes là aujourd'hui comme citoyen normal.
Je vous garde encore un tout petit peu, bien que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Allez-vous être le 17 octobre à l'Élysée pour la clôture de la marche nationale des sans-papiers?
Bien évidemment, comme j'ai commencé aujourd'hui la marche de Marseille, je suis venue de Strasbourg, j'ai fait quand même 900 km pour arriver là, pour faire le départ. Je serai aussi le 17 octobre pour aller la marche de l'Élysée. C'est déterminé, il faut le faire.
Et croyez-vous que votre démarche, donc, ou soit la démarche des marcheurs, va-t-elle aboutir? Les marcheurs obtiendront-ils gain de cause?
Inch'Allah. Moi, je dirais que s'il y a beaucoup de force, peut-être qu'on aura quelque chose. Je souhaite bien. Ouais, on va faire notre combat pour avoir quelque chose. Si on est là, tout le monde est mobilisé pour faire ça. Inch'Allah, on aura un gain de cause.
Nous vous souhaitons en tout cas bonne chance pour la suite.
Merci beaucoup. Je vous remercie énormément.
Une histoire, un parcours, un engagement, le combat de Fadila. C'est le thème de l'émission de ce soir. Ça se passe en no comment. Vous-même, vous avez suivi l'émission, vous l'avez écoutée. Dans l'immigration, il y a plusieurs aspects et nous ne lasserons pas de vous présenter tous ces aspects-là. Merci infiniment, fidèles auditeurs et auditrices de la radio Valérie Lucien, de nous avoir suivis. Nous allons nous retrouver au mois de novembre pour une autre émission et ça sera un mini documentaire concernant la marche nationale de sans-papiers. Les marcheurs venus de quatre coins de la France se réunissent et vont parcourir plusieurs kilomètres pour faire entendre leur voix. Leur message, c'est la régularisation de sans-papiers, la fermeture de centres de rétention administrative, ainsi que le logement pour toutes et tous. Merci de nous avoir suivis. les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista.